à tous, voici l'émission de l'Église protestante unie de Chartres-Beauce-et-Perche, animée par Marie-Christine de Heuvels. Et je suis très heureuse de recevoir aujourd'hui Judith Doré. Bonjour Judith.
Bonjour Marie-Christine.
Émilie Glory est à la technique. Merci Émilie. Aujourd'hui, Judith, nous continuons l'évangile de l'enfance de Jésus que nous trouvons au début de l'évangile selon Matthieu. Notre texte se trouve au chapitre 2, dans les versets 13 à 23. Mais nous prions avant d'ouvrir la Bible.
Seigneur, permets-nous de déposer quelques minutes nos soucis, nos tracas, nos fardeaux, et de faire silence pour être à l'écoute de ta parole. Viens ouvrir nos cœurs et nos intelligences pour que chacun de nous aujourd'hui puisse entendre une parole de toi. Une parole qui nous remet debout, qui nous met en route, une parole d'espérance. Amen. Donc Marie-Christine va nous faire la lecture d'une partie du chapitre 2 de l'Évangile selon Matthieu.
Oui, donc les versets 13 à 23. Quand les savants furent partis, un ange du Seigneur apparut à Joseph dans un rêve et lui dit « Lève-toi, prends avec toi l'enfant et sa mère et fuis en Égypte. Reste-y jusqu'à ce que je te dise de revenir, car Hérode recherchera l'enfant pour le faire mourir. » Joseph se leva donc, prit avec lui l'enfant et sa mère en pleine nuit et se réfugia en Égypte. Il y resta jusqu'à la mort d'Hérode. Cela arriva afin que s'accomplisse ce que le Seigneur avait dit par le prophète. « J'ai appelé mon fils à sortir d'Égypte. » Quand Hérode se rendit compte que les savants s'étaient moqués de lui, il entra dans une grande colère. Il donna l'ordre de tuer à Bethléem et dans les environs tous les garçons de 2 ans et moins, selon les indications de temps données par les savants. Ainsi s'accomplit ce qu'avait déclaré le prophète Jérémie. On a entendu une voix à Rama, des pleurs et de grandes lamentations. C'est Rachel qui pleure ses enfants. Elle ne veut pas être consolée car ils sont morts. Après la mort d'Hérode, un ange du Seigneur apparut dans un rêve à Joseph en Égypte. Il lui dit « Lève-toi, prends avec toi l'enfant et sa mère et retourne au pays d'Israël, car ceux qui en voulaient à la vie de l'enfant sont morts. » Joseph se leva, prit avec lui l'enfant et sa mère, et retourna au pays d'Israël. Mais il apprit qu'Archélaos était devenu roi de la Judée à la suite d'Hérode, et il eut peur de s'y rendre. Il fut averti dans un rêve, et il partit pour la région de la Galilée. Il habita dans une ville appelée Nazareth, afin que s'accomplisse cette parole des prophètes, il sera appelé Nazaréen.
Merci. Nous avons ici 3 brefs récits. D'abord, Joseph et Marie fuient avec Jésus en Égypte. Ensuite, Hérode fait massacrer des enfants. Et finalement, la famille de Jésus revient d'Égypte et s'installe à Nazareth. Ici, il est question de l'identité de Jésus. Qui est Jésus ? Comment est-il possible de reconnaître en Jésus de Nazareth le Messie, le Christ?
Il y a de nombreuses références à l'Ancien Testament. Sans doute pour élever Jésus au rang des grandes figures de l'Ancien Testament comme Moïse ou David. Les épisodes de la fuite en Égypte et le retour d'Égypte témoignent de la volonté de Matthieu d'identifier Jésus à Moïse.
Matthieu évoque les expériences fondatrices du peuple d'Israël pour structurer l'identité de Jésus. Et si on regarde de plus près notre texte, on voit que dans ce début de l'Évangile selon Matthieu, où il est question de la naissance et de l'enfant de Jésus, c'est Joseph, le personnage principal. Dans le premier chapitre, c'est à lui que l'ange avait annoncé la naissance. Et encore une fois, dans notre passage aujourd'hui, c'est à Joseph que l'ange, l'envoyé de Dieu, parle en songe. L'ange prévient Joseph que l'enfant Jésus est en danger, qu'il faut fuir en Égypte. L'Égypte est traditionnellement un pays de refuge à 5 ou 6 journées de marche. Joseph obéit immédiatement aux instructions de l'ange. Il voyage de nuit et prend toutes les précautions nécessaires pour mettre Marie et Jésus à l'abri. On comprend qu'il y a à la fois l'intervention de Dieu, par le moyen de son ange, mais aussi la responsabilité de l'homme d'agir.
Et puis, la petite famille reste sagement en Égypte jusqu'à l'abord d'Hérode.
C'est la citation à la fin de ce récit, « D'Égypte, j'ai appelé mon fils », qui vient d'Osée au chapitre 11, au verset 1, et qui semble dire que la fuite en Égypte n'est pas une parenthèse accidentelle dans l'histoire de Jésus, mais quelque chose qui le relie à l'histoire générale d'Israël. Cela dit, comme on a déjà dit, quelque chose sur l'identité de Jésus. Deuxième récit, Hérode est furieux parce que les mages n'ont pas suivi ses ordres. Ils sont repartis sans lui dire où ils pouvaient trouver l'enfant qui devait être roi des Juifs et qui pourrait représenter une menace pour Hérode. Ce deuxième récit, bref, c'est les versets 16 à 18, raconte la colère d'Hérode. Il massacre de tous les enfants de moins de 2 ans à Bethléem.
C'est vraiment horrible et tellement insupportable qu'on peut douter de la vraisemblance historique du récit. D'autant plus que Hérode aurait pu facilement retrouver la maison où les mages étaient passés et dans une bourgade, il n'y aurait pas eu beaucoup de naissances d'enfants viables.
Et le troisième récit est toujours sobre et solennel. Il souligne encore une fois le rôle de Joseph. Il reçoit l'ordre de prendre, ou de recevoir, Jésus et sa mère, tout comme il avait reçu l'ordre de recevoir Marie chez lui et de ne pas la répudier au premier chapitre de Matthieu, quand il a appris que Marie était enceinte. Et le geste de recevoir est très important dans les évangiles. On doit se mettre humblement en position de recevoir de Dieu son don, le don de la vie. Et Joseph se lève, prend l'enfant et sa mère et retourne en Israël. À cause du danger que représente Archélaos, il s'installe en Galilée, à Nazareth. Et Nazareth, à l'époque, était une petite bourgade sans importance. L'humilité de cet endroit indique comment Jésus accomplit les prophéties relatives à l'humilité du serviteur promis. Et on ne sait pas si ce récit correspond à des faits historiques. Mais on voit le thème de l'accomplissement de l'Ancien Testament. Car chaque récit se termine par une citation de l'Ancien Testament. Au verset 15, on lit « Cela arriva afin que s'accomplisse ce que le Seigneur avait dit. » Puis ensuite, au verset 17, on lit « Alors s'accomplit ce qui avait été dit par l'entremise du prophète Jérémie. » Et puis encore, à la fin du troisième récit, au verset 23, nous lisons « Afin que s'accomplisse ce qu'il avait été dit par l'entremise des prophètes. »
Donc, on peut penser que l'essentiel pour l'évangéliste n'est pas le détail ou l'exactitude des faits rapportés, mais la réflexion sur l'idée d'accomplissement.
Oui, et pourtant, les faits racontés dans ces versets n'ont rien d'absolument invraisemblable. Les fuites en Égypte des familles juives suspectes, ou les violences d'Hérode, ou l'installation en Galilée pour échapper à la terreur qui a régné pendant les 9 ans où Archelaus était au pouvoir, tout cela correspond à ce que nous savons de cette époque. Par exemple, les termes qui décrivent la colère et les ordres d'Hérode correspondent bien à ce que nous savons de lui.
Ce passage est intéressant aussi parce qu'il nous donne des repères précis. Hérode le Grand est mort fin mars ou début avril de l'an 4 avant notre ère. On peut donc supposer que Jésus était né dans l'an 6 ou 7 avant notre ère. Par ailleurs, on sait que le recensement de Quirinus, mentionné dans l'évangile de Luc au chapitre 2, eut lieu entre les années 9 et 6.
Donc, c'est intéressant. Et ce qu'on peut aussi noter, c'est comment la géographie joue un rôle intéressant pour structurer ces récits. C'est une histoire qui franchit les frontières. De l'Égypte, qui est vue comme terre de salut et de refuge, et qui met en avant le projet libérateur de Dieu, on passe en Galilée, qui est terre d'accueil, et on évite la Judée, terre de souffrance et de rejet.
C'est à Bethléem, en Judée, qu'a lieu le massacre des enfants ordonné par Hérode, et la Judée sera la terre du rejet et de la crucifixion du Christ.
Thank you.
Qu'est-ce que ces trois récits ont à nous dire aujourd'hui, dans ces jours qui suivent Noël? Peut-être même que nous aurions eu envie de camoufler cette histoire de tuerie d'enfants à Bethléem. Luc, par exemple, n'en parle pas. Nous aurions envie de rester sur une image calme et paisible de Noël. Et pourtant, la violence fait partie de notre monde. Jésus, dès sa naissance, doit se déplacer, voyager. Il dira plus tard, en lisant Matthieu 8 au verset 20, « Les renards ont des terriers et les oiseaux ont des nids, mais le fils de l'homme n'a pas un endroit où il puisse se coucher et se reposer. » Malgré la puissance tyrannique d'Hérode, Dieu sauve la vie de l'enfant Jésus en faisant de lui un exilé. Par l'intermédiaire d'un songe à Joseph, Dieu s'oppose au projet d'Hérode et Jésus voyage jusqu'en Égypte, qui devient terre de refuge, comme au temps de Joseph. Et ensuite, Jésus doit se déplacer dans l'autre sens, mais en évitant la Judée. Il va en Galilée, où il commencera son ministère et où il appellera ses premiers disciples. Dieu nous appelle à franchir des frontières, tout comme il avait appelé Abraham en Genèse 12 à quitter son pays pour un lieu inconnu. Il lui dit « Va-t'en de ton pays, du lieu de tes origines et de la maison de ton père, vers le pays où je te montrerai. » Et Abraham partit comme le Seigneur le lui avait dit.
On peut penser aussi à ce que dit l'apôtre Paul dans sa lettre aux Galates. Il n'y a plus ni juif ni païen, il n'y a plus ni esclave ni citoyen libre, il n'y a plus ni homme ni femme. En effet, vous êtes tous un, unis à Jésus-Christ, toutes les différences sont abolies.
L'Évangile traverse le monde. La parole de Dieu peut s'enraciner dans toutes les terres, dans toutes les histoires humaines. En Christ, toute histoire trouve son sens, même quand il y a pour nous absence de sens, ou quand il n'y a que ténèbres, violence et mort. La faiblesse de Dieu est plus puissante que les puissances humaines. Que notre histoire reste éclairée et instruite par l'enfant exilé. Il témoigne que rien ne peut arrêter la volonté de Dieu de sauver la vie et d'illuminer tous les humains dans les ténèbres les plus profondes. Amen.
Je vous invite à la prière. Père, dans l'Écriture, tu nous montres un chemin et tu nous appelles à cheminer. Mais pour cela, il faut commencer par partir, quitter nos habitudes, nos conformismes, nos fausses certitudes et nos vaines justifications. Regarde ces liens, ces prisons nous empêchent d'avancer sur le chemin de la foi. Nous te les remettons. Dénoue les liens qui nous retiennent. Abat les murs des prisons qui nous enferment. Brise les idoles qui nous séduisent. Quand nous regardons au fond de nous, nous savons bien ce qui nous empêche d'avancer. Si c'est la peur, apaise-nous. Si c'est l'obscurité, éclaire-nous. Et si c'est la paresse, inquiète-nous. Donne-nous aujourd'hui le courage et l'assurance dont nous avons tant besoin pour que notre foi ne soit ni une certitude immobile, ni un sentiment éphémère, mais une mise en route vivante et authentique. Amen. Merci Judith pour ce moment de méditation. Je vous rappelle qu'il y a culte tous les dimanches matins à 10h30 au temple 20 rue Saint-Thomas à Chartres. Nous serions très heureux de vous y accueillir. Au revoir et à bientôt.
Au revoir Marie-Christine.
Thank you. Thank you.